Ok, donc c'est une courte histoire pour, c'est quoi, le 10 février?
Oui.
Hein? Vous pouvez parler, hein? C'est comme s'il était là. Bonjour Franck, nous savons que tu vas entendre ça. Ok, donc cette fois-ci, on parle de la vie ecclésiastique. Donc en premier, on va parler du gouvernement de l'Église au début du christianisme. Et donc, il y a les dons qui étaient reçus de la part de Dieu. Donc, par exemple, il y a les apôtres, il y avait les prophètes, et il y avait les évangélistes, il y avait les pasteurs, il y avait les docteurs qui enseignaient. Donc, ce sont les dons que Dieu a communiqués à l'Église. Et puis, on voit dans les Actes des apôtres qu'il y a eu quelque chose, on va dire, de spécial, des fonctions que les chrétiens ont inventées, qui sont quand même dans la parole. Et donc, les qualifications dans les paroles. Mais je veux dire, par exemple, il y a des diacres, par exemple. Où est-ce que j'ai écrit ça? Voilà, des diacres, donc les hommes qui devaient être qualifiés quand même. Mais c'était dans les actes qu'on a dit, tiens, il y a besoin d'un service. Et donc, ils ont voté quelques hommes à faire la fonction de ce service pour s'assurer que les dames juives, mais d'origine à l'extérieur d'Israël, recevaient leur portion du pain quotidien. Donc, ça suppose qu'il y avait une distribution de pain. Donc, il y avait des veuves. Et les veuves étaient soutenues par l'Église. Et on va revenir à ça. Dans l'Église du premier siècle, on a dans Romains chapitre 16, verset 1, qu'il y a une dame qui était une diaconesse. Donc, il y avait des diacres, il y avait des diaconesses. Oh, ça c'est diacone, diaconesse, ça veut dire serviteur. Des serviteurs. Des gens qui faisaient un service officiellement pour l'Église. Donc, imaginons, on pourrait même le dire comme aujourd'hui dans une culture musulmane, les hommes s'occupent des hommes, les femmes s'occupent des femmes. Donc, un diacre globalement, va s'occuper des affaires de l'Église et au début, quand Actes chapitre 6, ils ont apporté la nourriture chez les veuves. Mais si ça c'était plus dans le domaine féminin, eh bien, ce seraient les dames qui s'occupaient des dames, les diaconesses qui s'occupaient des dames. Ou une autre façon de voir ça, c'était que parce que c'est pas défini dans la parole, donc on suppose certaines choses. Soit c'était des dames qui étaient établies par l'Église en tant que diaconesses, ou bien c'était les femmes des diacres qui s'occupaient des dames dans ces choses-là. Il y avait aussi des prophétesses, donc on a dit qu'il y avait des prophètes, mais on voit qu'il y avait aussi des prophétesses. Par contre, une femme ne pouvait être ni pasteur ni docteur. Donc là, c'est dans 1 Timothée chapitre 2 et 1 Colossiens chapitre 14. Et puis, il y avait la première institution chrétienne. Quelqu'un connaît ce que c'était? La première institution chrétienne. On a déjà entamé le sujet. C'était les veuves. Donc, on aborde le sujet dans Actes chapitre 6 et plus tard dans 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée 5, verset 9. On lit qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, donc sur la liste, n'est pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, etc. Donc, il faut que certaines choses soient en place, mais au début du paragraphe, ou verset 3, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils, les enfants et les petits-enfants, s'occupent, exercent la piété envers leur propre femme et qu'ils s'occupent d'elle, pour que l'Église ne soit pas à charge. Donc, on a établi une liste des dames dans les églises qui avaient besoin de soutien parce qu'ils n'avaient pas de famille. Donc, ça, c'est la première institution chez les chrétiens, c'était s'occuper des dames. Bon, Jacques, il dit s'occuper des veuves et des orphelins, n'est-ce pas? Donc, il y avait peut-être aussi une liste des orphelins, on ne sait pas, mais on voit qu'il y avait une liste des veuves. OK? Questions ou commentaires? Non. OK. Donc, concernant le culte de l'Église, on va voir le premier et second siècle, deuxième siècle. Alors, nous savons dans l'Acte des Apôtres, au début, 7 jours sur 7, les chrétiens se réunissaient. C'était tous les jours, maison dans maison, ils se réunissaient pour prier, pour communier, pour manger ensemble, etc. Mais quand c'est venu à la question de culte proprement dit, le rassemblement des chrétiens, donc le dimanche matin, alors je vous dis, moi j'ai lu les notes, moi j'ai pas écrit les notes, donc je ne peux pas vous dire de quelle référence on a pris cette information, mais le premier, bon, le dimanche matin, il y a eu la lecture de la parole, il y avait les exhortations, il y avait les prières à haute voix. Comment savons-nous que c'était à haute voix? Parce que Paul, quand il parle aux Corinthiens, il dit que si vous parlez dans une langue étrangère, les autres ne sauront pas comment dire Amen. Donc, c'était les prières à haute voix et des chants. Ça, c'était le dimanche matin dans le premier siècle. Et puis, le dimanche soir, ils avaient le agape. L'agape, c'était ce repas d'amour, un repas en commun, qui était mélangé avec ou suivi par la scène. OK? Donc, Paul a supprimé cette pratique en Corinthiens parce qu'on faisait ça mal et on s'enivrait et puis c'était de la pagaille. Et donc, il a bien séparé les choses. Vous voulez avoir les repas en commun, faites ça là-bas. Et vous voulez avoir le repas du Seigneur, faites ça là-bas. Donc, deux choses bien distinctes maintenant. Mais globalement, nos repas en commun sont les agapes. Mais pas mélangés avec le repas du Seigneur. C'est distinct, deux choses différentes, même si c'est le même jour. Alors, quand il y a eu des conversions, la conversion était suivie immédiatement par le baptême. Ce n'était pas 10 jours ou 10 ans plus tard. C'était le même jour. Le baptême était la déclaration de foi. Pour nous, on va dire, bah, levez votre main ou priez une prière ou quelque chose. Si vous avez un cours en Jésus, faites ceci. Mais bibliquement, qu'est-ce qu'on faisait? Quand on a un cours en Jésus, on le manifestait comment? En se faisant baptiser. En se faisant baptiser. OK. Plus tard, donc dans le deuxième siècle, on va mettre jusqu'à 2 ans. On parlait des listes tout à l'heure, OK? Donc, parce qu'il y avait des persécutions, et puis il y avait les gens qui étaient tués, donc souvent c'était le pasteur qui était tué, et donc les meilleurs enseignants disparaissaient plus rapidement. Mais on ne voulait pas faire entrer dans la communauté des chrétiens, les gens, avant qu'on était vraiment sûr qu'ils étaient chrétiens. Donc au début, on baptisait tout de suite. Et les gens étaient chrétiens tout de suite. Et ils faisaient partie de l'église tout de suite. Et faisaient des bêtises tout de suite. Oh, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va les discipliner. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu a conçu la chose. Mais par la suite, dans le 5e siècle, on dit, oh, ben, c'est trop de discipliner les gens. On ne veut pas faire ça. On va leur donner 2 ans d'attente avant le baptême. S'ils disent qu'ils croient en Jésus-Christ, OK, depuis ce moment-là, on va leur donner 2 ans pour nous montrer qu'ils sont vraiment des croyants. Et quand ils ont réussi ces 2 ans, on va les baptiser. Et c'est aller jusqu'à 3 ans d'attente. Bon, par la suite, il n'y avait plus de discipline. Pas besoin de discipliner parce que si on faisait une bêtise, on ne va pas vous baptiser. Donc, ce n'était pas juste. Parce que le premier acte d'obéissance d'un chrétien, c'est de se faire baptiser. Et on ne veut pas que les chrétiens fassent des bêtises, des péchés. Mais quand même, on a droit à être baptisé tout de suite. Bon, on n'est pas toujours prêt, comme même ici à Brive, je crois qu'il y a un baptistère en bas. Mais ce n'est pas plein d'eau. Donc, on ne peut pas baptiser quelqu'un tout de suite parce qu'il n'y a pas de l'eau. Donc, on pourrait aller dans la rivière ou peut-être à la piscine municipale. Mais normalement, de nos jours, on va fixer une date et on va baptiser la personne. Ce sera leur façon, leur moment pour manifester leur foi devant les autres croyants. Mais pour dire, à l'origine, le baptême était tout de suite et c'était leur déclaration de foi. Vous pouvez imaginer si un musulman, dans un pays musulman, se convertissait à Jésus et se faisait baptiser tout de suite en public, qu'est-ce qui arriverait? Tout de suite. Donc, voilà, c'était pas par hasard que ces gens se faisaient baptiser. C'était toujours, même à l'époque, c'était un risque. Mm-hmm. OK?
C'était vraiment pour montrer leur foi.
Voilà.
C'était...
Voilà.
Risquer leur vie.
OK. Donc, dans le second siècle, on a ajouté beaucoup au culte, le rassemblement de dimanche. Le dimanche, on avait la lecture de la parole, on avait les exhortations, on avait les prières, on avait la scène, on avait les prières, on avait une collecte pour aider les veuves, les orphelins, les malades, les prisonniers et les étrangers. Et après la réunion, ils emmenaient la scène chez les malades. Donc c'était beaucoup...
Ils amenaient la scène?
La scène chez les malades.
Ah
bon? C'était le second siècle, attention. Il y a une différence entre le premier siècle et le second siècle. Donc ça, c'est la religion maintenant. Alors, pourquoi, qu'est-ce que ça fait d'apporter la scène chez un malade? Bon, évidemment, ça fait participer quelque part. Mm-hmm.
Mais c'était presque comme la superstition, c'était un geste qui...
Ça devient un peu plus... C'est religieux, c'est superstition, c'est... L'idée de la communion, de la scène, c'est la communion. On le fait ensemble. Mm-hmm. Donc, le malade. On peut amener le malade à l'église.
Bien sûr.
Ou il peut attendre la prochaine fois.
Ça dépend s'il est bien malade. Mais s'il est bien malade...
Comment on voit avec Jésus, on a porté les gens sur le palette à droite et à gauche. Donc, ils auraient pu le faire s'ils voulaient. Alors, je ne dis pas qu'ils sont obligés. Mm-hmm. Mais est-ce que la scène nous apporte quelque chose? Si je mange le pain ou bois la coupe, est-ce que je suis plus chrétien que le 3 secondes auparavant?
Non, ce n'est pas une question d'être plus chrétien, mais c'est un geste d'obéissance.
D'obéissance,
c'est Dieu, c'est
oui.
Dieu qui nous a donné, enfin c'est Jésus qui a...
De partager ça.
Ça
okay.
Nous rappelle, on se rappelle le sacrifice de Jésus. Sur
voilà, mais quand on n'est pas à l'assemblée, on ne peut pas être ensemble.
Ben
donc c'est une contre...
Contradiction. Oui, c'est une contradiction.
Donc,
même, à vrai dire. Oui.
Si la personne a raté une fois, ou deux fois, ou cinq fois, il peut toujours venir le deuxième, troisième fois, cinquième fois, il peut toujours venir la prochaine fois. Donc, c'est pas comme, voilà, il faut qu'on amène la scène comme si c'était un élément spirituel chez les gens. Donc, c'est une chose qui se passe au culte. Mais bon, j'ai dit, c'est le second semestre.
Deuxième
siècle. On commençait déjà à transformer
à
le christianisme.
Oui. À dévier,
exact. Alors, au second siècle, le baptême était toujours par immersion, comme c'est dans la Bible, sauf, on faisait effusion s'il n'y avait pas assez d'eau.
Effusion,
ça veut dire on prenait un bol ou quelque chose et on versait l'eau sur la tête trois fois pour représenter effusion.
Effusion.
Oui. Aspersion, c'est ça. Jeter. Effusion, c'est
verser.
Et donc ça représentait, normalement, on mettait les pieds dans l'eau et on verser l'eau sur la tête trois fois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour représenter une immersion. Mais est-ce que c'était une immersion?
Non,
ce n'était pas une immersion. Donc ça, c'est l'origine déjà de ce qui se passe par la suite. On va commencer à faire des baptistères, on va diminuer la taille des baptistères et tout ça, jusqu'à ce qu'on fait l'aspersion ou le goutte sur le bébé. Donc, il y a toute une évolution dans la pratique du baptême. Mais là, on est au deuxième siècle. Il n'y a que l'immersion. Et des fois, s'il n'y a pas, c'est très rare, des fois, s'il n'y a pas de l'eau, on faisait cette autre pratique. Alors, toujours au second siècle, seuls les baptisés pouvaient prendre la scène. Alors, la morale et la discipline dans l'Église était assez correcte. Vie sainte. On attendait une vie sainte de la part des chrétiens. Et par rapport au monde qui environnait les chrétiens étaient les saints. Hein? Alors, dans le second siècle, les questions restaient toujours des questions. Par exemple, on a parlé de ça, je pense, la dernière fois. L'esclavage. Bah, on n'a pas parlé de cette détail-là, mais l'esclavage, est-ce bien ou est-ce mal? C'est une question. On n'a pas résolu la question d'esclavage, ni dans la Bible, ni dans le premier ou second siècle. Les jeux de cirque. En France, il y a des cirques. Il y a des, comment ça s'appelle, des fêtes foraines et tout ça. Un chrétien peut-il aller ou pas? Dans le second siècle, encore le premier et second siècle, c'est une question personnelle. J'y allais, je n'allais pas. Ça me regarde. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Littérature. Achète un journal. Achète un magazine. Achète un livre. Un roman policier. Est-ce qu'on a le droit ou pas le droit? Bah, au premier et second siècle, c'était au jugement de chaque chrétien. Regardez la télévision. Oh, il n'y avait pas encore la télévision. Mais si on avait eu la télévision, premier et second siècle, ça aurait été au jugement de chaque chrétien. Ça ne regardait que la personne qui était devant le sujet. Plus tard, dans le troisième siècle, ils vont régler toutes les questions. Le chrétien, entre guillemets, hein, je dis ça comme ça, le chrétien ne regarde pas la télévision, il n'achète pas le journal, il ne regarde pas les magazines, il n'achète pas de romans policiers, il ne va pas au cirque. Et il y a toute une liste des choses que si, parce qu'il y a de plus en plus de chrétiens arrivés au troisième siècle, si un autre chrétien te voit au cirque, vous êtes coupé de la communauté. On ne permet pas les gens qui vont au cirque dans nos églises. Nous sommes des saints. Voilà, on a vraiment perdu l'esprit. Je veux dire l'esprit du christianisme. Hein? Et ça, c'est au troisième siècle. Pour l'application quand même, nous, aujourd'hui, hein, nous devons faire attention. Parce que c'est facile de fixer cinq règles. Hein? Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fais pas de cartes, je n'achète pas de romans. Et qu'est-ce que je peux mettre autre? Je ne regarde pas la télévision. Voilà. Je suis bon chrétien. Bon, c'est vrai que je mente, que je vole. De quoi?
Il ne faut pas regarder Internet non plus. Parce qu'il
n'y
a pas des belles choses.
Et la radio, et le satellite. Et on peut ajouter tout ce qu'on veut à la liste. Oui, mais si on ne fait pas ces choses-là, donc on se donne l'idée que je suis mieux que l'autre qui fait ça.
Pas du tout.
Ça n'a rien à voir. Parce qu'on ne peut pas fixer des règles et supprimer ce qui s'appelle la liberté de conscience. Il est peut-être vrai que quelqu'un utilise l'Internet et fasse de mauvaises choses avec l'Internet. Ça, c'est possible. Mais les autres chrétiens vont essayer d'aider cette personne à soit s'en débarrasser de son ordinateur ou bien régler sa vie. Hein? Parce que ça, c'est la partie difficile, c'est de régler la vie. La maîtrise de soi, c'est la partie la plus difficile. Donc, si on fixe une règle, bon, on ne fait pas ça, bon, on ne fait pas, mais on veut le faire. C'est dans le, je veux le faire. Donc, on n'a pas réglé le vrai problème. Vous voyez? Donc, c'est dommage que dans le troisième siècle, on a fixé toutes ces règles-là. La collecte chaque dimanche était administrée par les diacres afin d'aider les membres dans le besoin. Et les femmes de l'église faisaient des vêtements pour ceux qui en avaient besoin. Donc, ces choses-là, on lit dans la Bible, n'est-ce pas? Il y avait une certaine séparation vis-à-vis du monde. Les chrétiens vivaient distincts du monde et vivaient en obéissance aux autorités. Les chrétiens ne s'opposaient pas aux autorités. Ils ne pouvaient pas sacrifier aux idoles. Mais quand il y a eu des proclamations, bon, les chrétiens faisaient le mieux pour respecter les lois.
Ce qu'on doit toujours faire, du reste. Ce qu'on doit toujours faire, respecter les lois.
Oui, oui, ben c'est normal parce qu'on est chrétien et on croit que Dieu a établi le gouvernement civil. Donc, on doit respecter ce que Dieu a établi. Alors, à cette époque-là, l'évangile était communiqué par le véhicule de la parole. Pour nous, on va les traiter, les évangiles, tout ça. On va faire tout pour ne pas parler, parce que ça, c'est trop risqué. Mais eux, ils parlaient. Ils parlaient. Dieu a voulu qu'on parle. Mais il est vrai, maintenant, on a d'autres choses. On a la littérature, une personne peut le lire. Donc, il peut s'informer, mais à un certain moment, il va falloir qu'on nous en parle. Hein? Donc, c'est pour cela qu'on a fait le cours hein, tout à l'heure, pour qu'on puisse s'entraîner. Alors, on va dire, « Oh, mais c'est pas bien de s'entraîner à donner l'élément de Dieu. C'est pas bien, c'est pas l'Esprit de Dieu qui fait ça. » On peut critiquer, hein? Imaginez quelqu'un a le don de pasteur ou la fonction de pasteur. Est-ce qu'il va pouvoir faire ça sans s'entraîner? Vous prenez un jeune de 20 ans qui veut être pasteur. Est-ce qu'il peut simplement devenir pasteur? Ou est-ce qu'il va, peut-être ça vaut mieux qu'il fasse quelques études, qu'il apprenne quelques techniques et tout ça? Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Voilà. Donc, c'est pas méchant qu'on s'entraîne à partager l'évangile parce que nous, vous et moi, on a quand même ces émotions négatives en nous quand on va face à quelqu'un que nous ne connaissons peut-être pas ou peut-être c'est un très bon ami et on hésite de le offenser. Donc, on a en nous ces choses-là, qu'on combat contre ça. Et donc, quand on est ensemble et on s'entraîne, on passe tous les caps qui pourraient nous empêcher dans la vraie vie. Donc, c'est utile. Ce n'est pas parfait, mais c'est utile. Alors, le gouvernement romain a passé quelques lois qui augmentaient les impôts chez les Juifs. C'était devenu très lourd et les Juifs se sont rebellés. C'était l'année 70. 37 années après la résurrection de Jésus.
Pourquoi les Juifs devaient payer plus?
Parce que c'était des tributaires. Ils étaient domptés par les Romains. Mmh. Et les Romains ne payaient pas d'impôts. Les Romains relevaient les impôts.
Il fallait qu'ils payent pour tout le monde.
Voilà. Donc, ils ne voulaient pas. On peut imaginer. Donc, ils se sont rebellés. Et donc, les Romains sont venus, ils ont fait le siège de la ville, ce qui a provoqué une famine. Donc, c'était Vespien qui est arrivé en 69. Et par la suite, donc, il était appelé à Rome pour devenir empereur. Et donc, il était remplacé par Titus, qui a donné l'opportunité aux Juifs d'accepter la paix. Les Juifs ont refusé et les a tous abattus. Bon, pas tous abattus, mais certains étaient crucifiés. Bon, beaucoup étaient tués, quelques-uns étaient crucifiés, d'autres étaient amenés pour les animaux dans le cirque, et d'autres étaient vendus comme esclaves. Donc c'était ça qui est arrivé aux Juifs de Jérusalem en l'année 70. Question là?
Le temple a été détruit.
Le temple, il est marqué là. Le temple construit, il dit en 9 ans. Mais dans l'évangile, il dit 40 ans.
Oui, 40 ans.
Le temple construit en 40 ans par, il dit, 18 000 hommes ont fait la construction. Eh bien, c'était détruit. Donc, la prophétie de Jésus était accomplie à propos de Jérusalem. Mais ce n'était pas tout Israël. Hein. Ça, c'était que ceux qui étaient réfugiés à Jérusalem. Bon, certainement, ceux qui étaient sur le chemin des Romains étaient abusés aussi. C'est encore 65 ans plus tard, il y aura encore une autre rébellion de Juifs qui est restée dans le territoire d'Israël. Et donc, ce sera un autre général romain qui va venir disperser les Juifs, massacrer beaucoup de monde, mais les disperser à travers tout l'Empire romain en tant qu'esclave. Ça, c'est encore 65 ans plus tard. Pas d'autres questions là? On va faire un tout petit peu plus. Donc, il y a eu des persécutions. On a parlé un petit peu de ça la dernière fois. L'empereur Domitien, dans l'année 81 à 96, persécutait à la fois les chrétiens et les citoyens romains afin de ramasser de l'argent et aussi pour s'amuser. C'était vraiment des pourris, hein? Alors, voici les charges qui pesaient sur les chrétiens. C'est intéressant. Donc, ils avaient les réunions le soir. Pour les gens du bien, ils étaient chez eux le soir. Donc, évidemment, ceux qui font les voyages dans la nuit, comme ça, ils sont magouilles. C'est la magouille qui fabrique là. mais en fait, c'était l'évangélisation le soir, comme ça. Mais pour les Romains, ça troublait l'ordre public. Ils avaient un esprit rebelle, dit Titus. Tite, je pense qu'on nous dit Tite. Ils tuaient leurs enfants en sacrifice et mangeaient leur sang.
Oh, wow.
C'est ça qu'on disait à leur sujet. Ils étaient cannibales. Vous savez, ils mangeaient le Christ. Vous comprenez? Les gens de l'extérieur, ils ne peuvent pas entrer pour savoir qu'est-ce qui se passe là. Mais ils disent, voilà, ils mangent le corps et le sang du Christ. Et Christ est un bébé. Ben oui, le petit bébé Jésus. Et on boit son sang.
Ah oui.
Donc, ils ont tous des mélanges dans leurs esprits.
Oui, c'est sacrément mélangé.
Mm-hmm. Oui, mais c'était commun à cette époque, le sacrifice humain et tout ça, donc...
Pas chez les Romains.
Mais comme ils
tuaient les gens, mais pas sacrifiés.
Ils avaient conquis beaucoup de pays, donc ils avaient dû voir ça dans d'autres.
Oui, mais c'était les critiques, c'était pas les justices, c'était les excuses. On disait que toute catastrophe était envoyée par les dieux afin de punir les chrétiens athées. Les chrétiens athées. Pourquoi ils étaient athées? Il faut voir de l'autre côté.
Ils n'adoraient pas le gouverneur.
Voilà, ils n'adoraient pas l'empereur, ils n'adoraient pas les dieux, Zeus et tout ça. Donc, c'était des athées, ils ne croyaient pas dans les dieux. Mais ils n'étaient pas des athées. Ils étaient athées vis-à-vis de quelque chose. Je vous ai déjà dit ça. Un catholique peut être athée aujourd'hui, mais athée, ça veut dire en opposition à l'Église catholique. Mais toujours croyant en Dieu, un vrai Dieu qu'ils n'ont jamais rencontré. Comme Bouddha était athée. Ils ne croyaient pas dans les dieux. OK? On disait qu'ils avaient la haine du genre humain. C'est les pécheurs partout. Ils ont tous à repentir. Ils n'aiment pas les êtres humains. Parce que nous, les êtres humains, on fait l'adultère, on fait tout ceci, on fait tout cela. Et vous n'aimez pas ça. Haine du genre humain. Il troublait la paix. Bon, prédication tout le temps, il agitait les gens. Qu'est-ce que c'est marqué là? C'était une conspiration à renverser le gouvernement. Oui, parce que c'était un empire dans l'empire. Il croyait en roi du nom de Jésus. On ne peut pas voir ça. Et puis, en plus, c'était l'inceste. Ah ben oui, les frères et les sœurs se mariaient.
Ils s'appellent tous frères et sœurs en Christ.
Non, mais c'est ça dans les documents historiques. Donc, vu de l'extérieur, vous voyez, c'est pour ça que moi, je suis venu au point de dire que voilà, nous voulons gagner les gens à Jésus. Mais en gagnant les gens à Jésus, nous voulons informer la population. Il y a un travail d'information, il y a un travail d'évangélisation. C'est deux choses différentes, mais l'un soutient l'autre. On informe les gens. Peut-être qu'ils ne veulent pas croire en Jésus, mais au moins ils vont savoir qui nous sommes. Ah, mais vous savez, c'est les gens dans le centre biblique et la fenêtre est fermée, ils sont en haut. Qui sait ce qu'ils font là-haut? Vous dites n'importe quoi. Et certains, peut-être, disent n'importe quoi. Mais on veut informer pour que les gens soient nos amis. Peut-être ils ne veulent pas être nos amis, mais au moins on veut qu'eux ils sachent que nous soyons amicales et les gens du bien. Peut-être certaines personnes viendront vers Jésus, peut-être pas, mais pour nous on ne veut pas qu'ils pensent qu'on est des méchants comme tous ces malentendus qui étaient propagés dans le premier et second siècle. Ok, vous avez une question là-dessous? Alors, à l'époque romaine, le peuple disait que toutes religions sont bonnes. Le peuple, les gens, disaient que toutes religions sont bonnes. Qu'est-ce que disaient les chrétiens?
Il n'y a qu'une seule qui est vraie.
OK. Les philosophes de l'époque disaient que toutes religions sont fausses. Comme ils disent toujours.
Ils n'ont pas changé. Hein?
Et qu'est-ce que nous disons? Non, il y a une vérité.
Une vérité,
et le gouvernement disait, toutes religions sont utiles. Toutes religions sont utiles. Le gouvernement en France aime, d'une certaine manière, le catholicisme dans le sens qu'il y a une hiérarchie. Donc, le gouvernement peut s'adresser en haut et en haut, fait connaître en bas. Les bouddhistes en France, c'est pareil, c'est une hiérarchie. Donc le gouvernement parle à l'hiérarchie et l'hiérarchie parle en bas. L'islam en France a une certaine hiérarchie. Il y a, par exemple, quand toutes les voitures brûlaient il y a sept ans ou quelques années là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures qui brûlaient. Et puis, on n'arrivait pas à arrêter ça. Et puis le gouvernement a parlé au haut imam de la France. Et il a dit, maintenant, ceux qui brûlent les voitures seront excommuniés. Tout est arrêté. Parce qu'ils ont parlé à celui qui avait l'autorité religieuse sur les gens dans la rue. Vous voyez? Mais en France, les évangéliques, est-ce qu'il y a une hiérarchie?
Certains, oui, mais normalement.
On essaie de mettre une hiérarchie. Oui. Donc, je sais plus, c'est pas le CNED, mais c'est quelque chose de semblable. Ils ont établi depuis 2-3 ans maintenant un groupe national qui représente tout évangélique en France. Que vous voyez ou pas, que vous le voyez ou pas. Donc, le gouvernement essaie de mettre cette chose aussi pour nous encadrer aussi. Alors, on voit, je pense qu'on a vu ça la semaine dernière, le première grande déviation. Bon, on a parlé des gnostiques la semaine dernière, on a parlé de ceux qui croyaient que le monde physique est mauvais et que seulement l'esprit est bon. et que Jésus ne pouvait pas avoir un corps parce que le corps est physique et Dieu ne pouvait pas être en contact avec le mal, le corps étant mal. Donc ça, c'est le gnosticisme. Et donc, la Bible traite ce sujet. L'autre grand problème qui a développé dans le premier siècle et qui s'est propagé jusqu'à nos jours, donc on a parlé de ça aussi, c'était l'idée que les anciens dans les églises dominaient sur les membres de l'église. Et donc, au début, on va voir ça, je pense, dans la prochaine étude, mais au début, c'était simplement l'église locale. Mais ça s'appelle Nicolaïte. Les Nicolaïtes, donc, qui dominaient le peuple. Et on a vu ça dans 3 Jean, je pense, 3 Jean 9, voilà. Et ça s'est développé et devenu ce que nous connaissons aujourd'hui comme les hiérarchies dans les grandes églises. Ce n'était pas au début les grandes hiérarchies. Au début, c'était des petites églises comme nous allons être un jour. Hein. Mais au fur et à mesure, on a donné plus de pouvoir au pasteur et pasteur était devenu le pasteur sur plusieurs petites églises, et puis régional, et puis national, et puis international. On a ajouté à la hiérarchie. Voilà. Il y a des questions ou des commentaires?
Non, pas spécialement.
Ok, on va arrêter là. Franck, j'espère que cet enregistrement a fonctionné.